Notre invité qui est sur place, justement, commission d'enquête sur le chlordécone avec Christophe Legvac. Bonjour, vous êtes avocat de deux associations antillaises qui se sont lancées dans une action collective.
Oui, c'est ça. Alors, précisons quand même un peu peut-être le cadre de cette affaire, alors que deux ministres vont être auditionnés ce matin, hein, Frédéric Vidal et Agnès Buzyn.
Le chlordécone, c'est un pesticide organochloré qui est utilisé, qui a été utilisé entre 1972 et 1992 dans les bananeraies aux Antilles. Et on sait depuis les années 60 qu'il est cancérigène, qu'il est perturbateur endocrinien et qu'il est réprotoxique. Ouais. Et pourtant, il a été utilisé. Ouais. Donc la grande question, c'est comment l'État a-t-il laissé faire? Pour quelles raisons? Quels étaient les intérêts économiques derrière tout cela? Et aujourd'hui, nous réclamons des explications, nous demandons l'accès à toutes les informations et surtout, nous allons rechercher par cette action collective la responsabilité de l'État qui n'a pas su protéger les populations antillaises.
Il y a eu beaucoup de victimes. Est-ce qu'on a déjà un chiffre, une estimation?
Alors, le chiffre d'estimation des victimes est difficile à établir. Ce que l'on sait, c'est que 92% de la population antillaise a été exposée à ce chlordécone, puisque le produit rentre dans la terre, dans les eaux, et va durer et va rester disponible et dangereux pendant plusieurs siècles. C'est-à-dire que des générations entières vont être exposées à ce produit, ce qui peut occasionner une recrudescence des cancers, des problèmes dans le développement des enfants, des problèmes dans le fait aussi d'avoir des enfants. Et donc, c'est une source de malheur qui va durer des siècles.
Oui, c'est ça. Alors après, tout dépend évidemment probablement du dosage, quoi, non? C'est ça pour la toxicité?
Non, c'est un perturbateur endocrinien.
Oui,
on n'a même plus besoin de dosage. Il suffit d'être exposé de manière continue pendant une année et on commence à avoir des effets.
Oui, des effets donc pour les populations locales, mais également probablement aussi pour, puisque c'était dans les bananeraies, pour les fruits qui étaient commercialisés un peu partout, sur tout le territoire, y compris ici dans l'Hexagone, non?
Alors apparemment non, puisque les scientifiques nous expliquent, comme c'est un produit très lourd, il reste dans les racines, il ne monte pas dans les fruits.
Oui.
Ça reste à vérifier, mais aujourd'hui, ça fait 30 ans, 40 ans, que l'État nous dit que les fruits n'ont pas été concernés par ce produit.
Oui.
Donc on peut les consommer en toute sécurité.
En toute sécurité, oui. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle, évidemment, ils ont continué d'utiliser ce produit à l'époque, non?
La raison principale, c'était que ça permettait d'améliorer les récoltes et donc d'améliorer la rentabilité et encore une fois d'enrichir toujours les mêmes.
Oui, oui. Bon, en tout cas, c'est une action collective que vous menez, c'est ça, comme dans d'autres affaires, hein, que vous-même, vous êtes avocat toulousain et vous vous êtes emparé de beaucoup d'affaires. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce sont ces actions collectives, comme c'est le cas dans l'Evothyrox notamment,
exactement,
qui permettent de faire avancer la justice?
Vous savez, aux États-Unis, les actions collectives se sont développées lorsqu'on a constaté que les lobbies avaient pris le contrôle du Congrès.
Ouais.
En France et même au Parlement européen, on a le même sentiment. Aujourd'hui, ce sont les lobbies qui dictent les lois, qui font avancer leurs intérêts et qui ne protègent plus les populations. Et on constate malheureusement que les États, et sur le glyphosate par exemple, on constate que les États sont très en arrière de la main par rapport aux intérêts des personnes. Donc le seul moyen aujourd'hui, c'est de se réunir, de se concerter et de saisir la justice pour qu'elle constate les manquements à la sécurité qui sont réalisés malheureusement par ces différents acteurs.
Oui, mais pourquoi l'État est autant en difficulté face à ces actions collectives? Parce qu'elle a fermé les yeux pendant de nombreuses années dans un tas d'affaires telles que celle-ci, sanitaire, quoi.
Si vous posez la question des questions sanitaires, on constate que les agences manquent d'indépendance.
Oui.
Elles n'ont pas les moyens d'ailleurs de mener à bien le travail d'enquête, de vérification. Si vous parlez du Levothyrox, je peux vous expliquer par exemple que l'ANSM n'est pas en capacité de vérifier les données scientifiques communiquées par les Big Pharma.
Oui.
Et donc, ils acceptent les documents, ils ont un travail quasiment bureaucratique. On a une étude qui a été faite, on croit qu'elle est bonne, on tamponne et on passe à l'affaire suivante.
Oui.
Or, le travail d'une agence indépendante, ça serait justement de reprendre l'étude, de la critiquer, de la vérifier et peut-être de demander à la refaire.
Mais pourquoi ils n'ont pas suffisamment de moyens alors, c'est ça? Pour pouvoir mener des contre-enquêtes, en quelque sorte.
Il y a une question de moyens, une question aussi de volonté, il y a une question aussi de disponibilité d'esprit. On a constaté qu'il y a beaucoup trop de va-et-vient entre l'industrie et les avances de vérification.
Oui, un dernier mot, Christophe Legvac, vous attendez quoi de l'audition des deux ministres, en fait, aujourd'hui, Frédéric Vidal et Agnès Buzyn?
Nous attendons un début de vérité. C'est-à-dire que si Mme Buzyn, comme d'habitude, comme M. le Président Macron, continue à utiliser le doute, on ne sait pas, le lien de causalité n'est pas établi, nous aurons la preuve qu'elle utilise la même méthode que les cigarettiers américains en 1953, qui expliquaient qu'il n'y avait pas de lien entre la fumée de cigarette et le cancer du poumon. On n'a pas besoin d'un lien de causalité fort, il suffit d'avoir des éléments graves et concordants pour démontrer qu'un produit est dangereux.
Oui, bon, et ça rappelle aussi beaucoup toutes les affaires qu'on a les actuellement Gator, avec
l'amiante.
Oui, l'amiante, bien sûr, les vieux thyrox, amiante, voilà. Et puis d'autres, peut-être, avec toutes ces histoires autour des pesticides aujourd'hui, hein, que l'on connaît.
L'affaire du chlordécone est le premier gros dossier de pesticides en France, puisque c'est toute une population qui est exposée encore une fois.
Merci d'être passé ce matin au micro Sud Radio, et puis on suivra ce dossier, cette évolution, en tout cas dans la journée, dans les jours qui viennent probablement. Merci.
Et puis vous retrouvez dans quelques instants, c'est Thierry Guerrier qui nous parlera du nouveau président des Républicains, Christian Jacob. Restez avec nous, 7h19, c'est le Grand Matin Sud Radio.